questions? Monsieur.
Est-ce que d'après vous, il est correct de dire que l'exhortation, en quelque sorte, organise une dualité dans la moralité, d'un côté une moralité qui est plus doctrinaire et de l'autre côté une moralité pastorale, et de ce sorte va éloigner plus que jamais la tradition des progressistes?
Oui, c'est-à-dire que... dans le document, il est dit expressément, nous ne voulons pas établir des normes de caractère général. Donc, nous n'entrons pas dans le débat doctrinaire. Et la doctrine est mise à côté. C'est une exhortation pastorale. Et donc, c'est dans ce qui nous intéresse, c'est la pratique. Mais la pratique, il y a par exemple, à mon avis, un revirement, un bouleversement d'un principe de saint Thomas, qui est un principe très intéressant, qui dans l'Ancien est présenté d'une façon exactement contraire. C'est-à-dire, saint Thomas dit, et la morale traditionnelle enseigne, que évidemment, la vie humaine est très complexe. Dans notre vie quotidienne, il y a toujours, souvent, des problèmes moraux assez compliqués, difficiles à résoudre. Alors, la façon la meilleure de résoudre, c'est de remonter au principe, c'est-à-dire que si nous avons des grands principes très clairs, disons, plus le principe est clairement formulé, le grand principe, plus est facile de résoudre le cas particulier. Par exemple, la fin ne justifie pas les moyens, par exemple. Alors ça, c'est un principe de caractère général. Alors, si on a clair ce principe, le mal peut être toléré mais jamais positivement commis. Ce sont des principes de caractère général, mais avec 1, 2, 3, 4 principes de caractère général, vous pouvez résoudre toutes les situations concrètes. Et car saint Thomas dit que la situation concrète est plus indéterminée de certains principes. Dans l'exhortation, cette citation est renversée dans le sens que dit. Aussi, saint Thomas dit que la situation, que les situations concrètes sont très, très indéterminées, très complexes. Donc, pour résoudre cette situation, on doit, tenir compte de toute la complexité. On ne peut pas trancher facilement, on doit, avec le discernement personnel, chercher éloignant ou mettant à côté les grands principes. Mais en réalité, ça signifie se plonger dans l'histoire, et en perdant de vue, les grands principes qui transcendent l'histoire et qui nous permettent de la juger, de l'évaluer et d'agir dans l'histoire.
Ce n'est pas une dualité, c'est une multiplicité.
Une multiplicité.
C'est un peu humoristique. Et une autre question? Pas d'autres questions.
Mais, pardon, non,
je vous en prie, c'est vous le conférencier, monsieur.
Non, je seulement dis une dernière chose qui est en pensant à quelle est la meilleure réponse. Et je pense que en étant les problèmes du caractère pastoral, je me rappelle par exemple d'avoir rencontré le père Manelli, le fondateur des Franciscains des Immaculés, Et il m'avait dit ça. Vous voyez, moi, quand j'étais jeune, pas Padre Manelli, je ne sais pas s'il était déjà prêtre ou séminariste, et il s'était ouvert à la Concile Vatican II, et lui disait, Manelli, en Italie, il y a les 80% des Italiens qui pratiquent les cathos, qui sont pratiquants. Alors, ça, c'est un scandale, car en Italie, il serait nécessaire d'avoir les 100% ou 90%. Et face à ce scandale, peut-être que le Vatican II, avec cette nouvelle pastorale, va transformer la situation et on va monter de 80 à 90. Mais, disait le padre Manelli, donc lui m'a dit, moi j'étais enthousiaste pour le Vatican II, car j'avais imaginé que le Vatican II nous aidait à aurait eu une grande efficacité pastorale. Mais après 50 ans, ce qui s'est passé, c'est que la pratique catholique en Italie est tombée de 80 à 10%. Donc, d'un point de vue pastoral, a été un échec. Et alors, à mon avis, aujourd'hui, par exemple, nous voyons que les églises où il y a les paroisses, où l'église où on célèbre la messe traditionnelle, où il y a de bons curés, où on pratique, où on est fidèle à la tradition de l'église, ont une force intrinsèque, une capacité d'agrégation, une fécondité bien plus grande que les paroisses progressistes ou les séminaires qui deviennent toujours vides. Donc ça c'est une réponse sur le plan pastoral qui, dans un certain point de vue, est plus fort qu'un livre théologique. C'est-à-dire que si il y a un séminaire de la Fraternité Saint-Pierre plein de séminaristes, ça, comment dire, ça c'est un fait concret qui n'amène pas de, disons, d'argumentation concrète, une argumentation contraire. Exactement. Alors, c'est-à-dire que nous acceptons les défis sur le plan pastoral, bien, alors, mais laissez-nous, comment dire, continuer dans une ligne pastorale différente. Et l'histoire, c'est pas notre, comment dire, critère mais alors que votre critère semble être avant tout le résultat concret de l'histoire, nos critères sont des critères doctrinaux, c'est la vérité, c'est pas l'histoire, les critères derniers. Mais vous dites, votre tribunal, c'est l'histoire. Bien, voyons, disons, quel est les verdicts, disons, final de l'histoire. Et je pense que l'histoire, mais avant tout, bon, le bon Dieu, bien sûr, va nous donner raison. Et nous donne déjà raison. Et aussi cette conférence, je vous remercie, c'est sur cette ligne.
J'ai une petite question, si vous permettez, monsieur le professeur. Historiquement, y a-t-il beaucoup d'occurrences homo et la réalité pastorale?
Il y a beaucoup de...
d'occurrences, donc on rencontre très souvent c'est une question, rencontre-t-on très souvent le concept de pastoral, les termes de pastoral, ça, on ne posait pas forcément fait une thèse sur le développement du mot pastoral dans l'histoire. Donc y a-t-il un changement de sens qui finalement, de ce mot-là qui finalement explique ce glissement redoutable?
Oui.
Parce que si je regarde le pastoral de Saint Grégoire le Grand,
oui,
et ce qu'on appelle aujourd'hui la pastorale, oui, je me dis qu'on est passé du prêtre au fidèle.
Évidemment, il y a eu un changement de langage, c'est-à-dire que d'après, disons, la conception traditionnelle, la pastorale était ou doit être disons, l'application des principes de la doctrine à l'expression pratique de la doctrine. Donc il doit y avoir une cohérence entre la doctrine et la pratique. La pastorale est le langage de la doctrine, un langage qui doit être toujours en étroite cohérence avec la doctrine. Aujourd'hui, il y a une nouvelle signification de pastorale, c'est-à-dire que la pastorale, en réalité, et sur ce point de vue, on pourrait aussi dire qu'en réalité, le Concile Vatican II n'a pas été un concile pastoral, mais a été un concile doctrinal, dans le sens que a élevé la pastorale à doctrine, mais en faisant ça, disons, a fait quelque chose il y a eu une nouvelle doctrine, c'est-à-dire que la pastorale est devenue pastoralisme, c'est-à-dire idéologie pastorale qui affirme les primats,
c'est l'interpellation des fidèles.
Exactement.
Plutôt qu'un guide pour les prêtres et les évêques pour la manière de bien faire leur œuvre de pasteur. Il me semble que ce Saint-Grégoire le Grand, le pastoral de Saint-Grégoire, c'est l'art d'être un berger.
Exactement.
La vie du prêtre en tant que chargé de l'âme. Tandis qu'aujourd'hui, la pastorale, c'est les artifices pour interpeller les âmes. Arriver d'une manière ou d'une autre à ne pas les laisser s'évader, mais au moins les interpeller pendant un moment.
Parfaitement. Exactement ça. Et on parle... Vous parlez justement des fidèles, c'est-à-dire de la base, mais on pourrait parler aussi généralement du monde, c'est-à-dire adaptation, c'est-à-dire que...
Des périphéries.
Oui, exactement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord.
D'accord. Peut-être une autre question, quand même. Non, vous avez soif. Monsieur le professeur, soyez grandement remercié pour cette intervention où on voit bien la maîtrise de beaucoup des sujets abordés, et pourtant il y en avait beaucoup.